Alors, on s'était parlé en 2004, il y a 4 ans de ça, pour la sortie de The Fast of Solace. Quoi de neuf depuis ?
Bah, écoute, depuis, bah, un album et puis des beaux musiciens.
Donc, ouais, justement, ça, il y a eu une évolution au niveau d'un des guitaristes de mémoire ?
Ouais, même deux, parce que finalement, ouais, le guitariste rythmique est parti juste avant l'enregistrement de l'album.
D'accord. C'est plutôt, ça fait partie des aventures d'un groupe comme Tancrust, ou c'est plus compliqué, enfin c'est compliqué à gérer.
Non, mais je pense que c'est un peu inévitable dans le sens où, ben voilà, Tancrust ça fait 13 ans que ça existe. Bon ben, à un moment donné, il y a forcément des choix, des parcours qui font que ben, les musiciens doivent partir pour leur raison personnelle, travail ou autre. Et ben, on l'accepte et puis on a à chaque fois réussi à rebondir.
D'accord. Finalement, là aussi, ces dernières semaines, vous avez été assez occupé. Vous êtes sorti d'une tournée de 10 jours assez intense.
C'est vrai.
Ouais. qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu, là, justement, pour ces premières aventures avec le nouvel album Sobra ?
Bah, écoute, les aventures, comme tu dis, ça a été des aventures. Hein. On a pas mal voyagé, on a fait 4000 bornes entre la Belgique et l'Espagne, et ça a été assez intense, et en même temps, ça a été intense musicalement et humainement, parce qu'on a rencontré pas mal de gens de différents horizons. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le nouvel album, à chaque fois, on a rencontré des, forcément, je veux dire, heureusement des bons échos, et forcément des gens qui les percevaient différemment. Donc ça a été très bien pour ça, on a pu avoir plein de retours de différents types.
D'accord. C'est la première fois que vous lanciez là-dedans sur des dates aussi proches les unes des autres ?
Alors on avait tenté une première tournée en 2016 où on avait fait 5 dates. Et c'est la première fois ouais, qu'on faisait autant de dates sur un espace-temps aussi court. Et c'était une volonté parce qu'on n'était jamais vraiment parti en tournée dans cette configuration-là, avec tout le matériel, van, pendant 10 jours, tous ensemble. Et du coup, ça a été une sacrée expérience qu'on a hâte de renouveler.
D'accord. Pendant ces 10 jours-là, très intenses, il y a eu des choses qui t'ont surpris, sur des choses que vous feriez différemment, ou des. Je sais pas, une autre organisation sur certains points.
Je pense que oui et non, je pense que c'est difficile parce que comme tu sais jamais trop bien à quoi t'attendre quand tu arrives une première fois dans une ville, dans un lieu, je me dis que à chaque fois qu'on va partir dans cette configuration là, il faudra de toute façon qu'on laisse la part au hasard parce que on pourra jamais tout maîtriser. Donc je crois que ça fait aussi partie de l'aventure de partir en tournée. Ben voilà, il y a des fois, il y a plein de gens, c'est cool, c'est la bonne surprise, il y a des fois, il y a un peu moins de monde, mais il y a d'autres choses qui rattrapent le coup, une bonne fête après, ou un truc comme ça. Donc non, je pense que on continuera dans la même configuration.
D'accord. Et toi, plus particulièrement au niveau chant, tu as dû avoir des règles de vie sur ces 10 jours un peu particuliers pour pouvoir assurer le lendemain le concert qui suivait ?
Ben écoute, c'est un des premiers à poser la question, je te remercie, parce que on se rend pas compte, mais au début il y a beaucoup de pression. Je me suis beaucoup entraîné pour essayer d'avoir une certaine endurance. Pendant toute la tournée, j'ai essayé d'éviter justement de trop boire, de trop fumer, j'ai essayé de bien me reposer pour préserver ma voix, de m'échauffer. Et du coup je ne savais pas trop bien si j'allais tenir justement toutes ces dates-là comme ça. Et finalement, je pense qu'avec cet entraînement rigoureux, ça s'est plutôt bien passé.
Parce qu'on se dit, bon, l'avantage, c'est que vous êtes tous expérimentés, vous avez un peu de bouteille, et donc le plan, dès le premier soir, je me crame la gueule, je dors n'importe comment, et puis c'est bien gentil, mais alors après, au bout de 3 dates, il n'y a plus rien, et malheureusement, les mecs qui suivent, les dates qu'il faut assurer, c'est toujours ça le problème. Ça reste un spectacle, et ça reste donc une performance physique.
Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, comme tu dis, je pense que, comme on est un peu là depuis quelques temps et qu'on fait ça depuis pas mal d'années, donc ouais, c'est maintenant un groupe de garçons assez sérieux et on voulait avant tout faire des spectacles
Bah, surtout qu'en plus, voilà, c'est un métal qui est un peu assez direct, et donc c'est pas juste, tu vois, enfin, on devine bien que sur scène, tu t'économises pas. Donc, t'étais du genre à pas trop parler après ou avant, à travailler avec des boissons chaudes, ce genre de choses, ou?
Ouais, j'ai tendance à trimballer dans mes bagages toujours plein de trucs pour la voix, genre du spray, des pastilles, des bonbons au miel, essayer de prendre des boissons chaudes avant. Et en général, j'essaie de m'économiser justement avant le spectacle. Après, en général, ça va un peu mieux. Une fois que ça s'est bien passé, j'arrive à me lâcher un peu plus. Mais ouais, je suis du genre à essayer d'être précautionneux avant. Et les garçons, de toute façon, sont assez précautionneux aussi. Chef, par exemple, il est très très rigoureux. Il boit pas du tout une goutte d'alcool avant le concert. Il s'échauffe une heure avant de jouer. Et puis, comme ça, on se sent au moins rassuré de pouvoir envoyer le plus loin.
D'accord. Et malgré tout ça, vous avez fini comment les 10 jours?
Et malgré tout ça, on a fini rincé, parce que finalement, au départ, tu te dis que c'est chouette, tu vas jouer, te reposer, visiter la ville, jouer, et en fait, tu passes ton temps à faire ton trajet d'un concert à un autre, te préparer, monter le matériel, jouer, démonter le matériel, faire la fête un petit peu, parce qu'il y a des gens qui te reçoivent, des gens qui veulent te voir, enfin, t'as envie de profiter aussi, puis finalement, tu te sens un peu, mais pas trop, et puis bah, ça enchaîne pendant 10 jours, donc on est rentré, on était décidé, quoi. Mais je crois que l'adrénaline et l'énergie, ça te tient quand même jusqu'au bout.
D'accord. Si on regarde un peu les temps entre le premier, entre chacune de vos sorties, il y a à chaque fois 4-5 ans, avec l'obligation d'avoir une activité professionnelle à côté, etc., tu sens que c'est un rythme normal pour Tancrust ou pour y aller plus vite?
Alors pour nous, je pense que c'est un rythme qui est devenu normal. Effectivement, comme tu dis, on a des boulots à côté et des obligations. Mais en vrai, je pense qu'il y a d'autres groupes qui fonctionnent de façon bien plus intensive, et qu'effectivement, on sent que des fois, il y a des gens qui voudraient qu'on sorte des choses un peu plus régulièrement. Ceci étant, de notre côté, nous, on peut difficilement faire plus rapide, parce que ça voudrait dire composer plus vite et peut-être moins bien, moins profiter des lives, parce qu'on cherche quand même aussi avant tout à faire de la scène. Donc c'est un peu notre rythme à nous.
D'accord. Finalement, moi, peut-être assez naïvement, je me dis, voilà, quand un groupe se dit, bon, prêt, là, il faut qu'on bosse sur la suite, c'est genre les mecs, ils se rassemblent entre eux, en tout cas les leaders artistiques, entre guillemets, ou créatifs, et ils discutent de ce qu'ils veulent. Est-ce que finalement c'était ça un peu le process pour Opposite Terror?
C'est la façon dont tu schématises, je sais pas forcément si c'était comme ça. Il y a eu un peu de ça. Il y a eu aussi beaucoup du fait que, pendant 2 ans après le premier album, on a pas mal profité de jouer. Et qu'à un moment donné, on se dit, tiens, on va commencer gentiment à composer le suivant. Et là, en fait, les morceaux, ils arrivent au fur et à mesure qu'on peut les insérer au milieu d'autres concerts qu'on fait. Et c'est pour ça aussi qu'on prend le temps, parce que, effectivement, on ne se rassemble pas d'un coup au studio en disant, bon, ça y est, on va composer un album, allez, c'est parti, 10 morceaux, tous ensemble. Donc, c'est vraiment le truc qui se fait sur la durée.
D'accord. Qu'est-ce qu'en général tu peux nous dire sur les sessions d'enregistrement d'Opposite Terror? Et est-ce que vous avez travaillé d'une façon ou d'une autre, à part, bon, c'est pas tout à fait les mêmes mecs, de façon différente par rapport à de Fast of Solace?
Oui. Tu m'entends bien?
Ouais, nickel.
Ok, cool. En fait, on a tiré un peu les leçons de la fois précédente, où déjà géographiquement on était plus éloigné, parce que on avait enregistré à Lille et en région parisienne. Donc déjà, par rapport à la fois précédente, on a pris un studio qui est plus près de chez nous pour pouvoir être plus près de la production. On avait conscience aussi du temps qui nous était imparti, donc on a enregistré le départ en direct à domicile avant de les passer à l'ingénieur pour qu'il les mixe dans l'album. Et du coup, on est allé comme ça avec l'expérience qu'on avait d'avant. Et de ce qu'on voulait plus non plus au niveau du son, ce qu'on voulait apporter pour la nouvelle sonorité, voilà, on a pris tout ça et on a conçu comme ça.
D'accord. Nouvelle équipe aussi pour le niveau de l'enregistrement, je voyais Hybrid Studio, Andrew Guillotin.
Ouais.
Donc vous avez voilà changé un peu de les personnes avec qui travailler par rapport à l'album précédent. C'était important pour vous aussi d'avoir un autre ressenti, un autre vécu, quelqu'un qui pouvait apporter autre chose, différent, ni mieux ni moins bien, mais différent.
Comme tu le dis, voilà, ni mieux ni moins bien, mais différent. Voilà, on est au troisième CD qu'on produit et trois expériences différentes. On voulait une autre expérience et Andrew, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais enregistré dans un autre de mes projets, donc que je connaissais déjà et on avait discuté de son cross et je connais déjà son travail. Je suis quelqu'un qui l'a depuis longtemps dans le métal, qui a enregistré des très bons groupes comme VR et du coup, on a voulu tenter, avec lui, parce qu'il savait identifier le son qu'il pouvait apporter à son cross. Donc, ça a permis de donner un nouveau souffle à cet album-là.
Ok, je vois là sur l'album que je tiens dans la main, il y a 9 titres qui apparaissent.
Ouais.
Vous aviez combien de titres vous avez bossé en tout? Il y a que les 9 qui apparaissent là ou vous en avez retiré certains au dernier moment?
Non, on en a bossé, ouais. On aurait pu faire une dizaine de morceaux si on avait voulu, mais on aurait fait 12 morceaux, on va dire, incomplets. À un moment donné, il a fallu qu'on fasse des choix, c'est-à-dire qu'on faisait. Peut-être moins de morceaux sur l'album, mais qu'on les poussait jusqu'au bout et qu'on les construisait en entier, plutôt que de vouloir à tout prix faire un album avec 10 morceaux, parce que c'est comme ça que ça se fait, mais d'avoir des morceaux qui étaient peut-être encore un peu bancales.
D'accord, donc plutôt, ouais, plutôt 9 titres dont on est fier que des trucs qui laissaient passer des choses qui vous plaisent moins.
Voilà.
D'accord. Si on prend tout le process de compo, puis ensuite entre guillemets maquettage, enregistrement, etc. Tout le process a duré combien de temps environ?
Mon Dieu, si tu savais. Bah écoute, le process a duré quasiment un an parce que en fonction des emplois du temps et des départs des uns et des autres, tu vois, Chef a été le premier à enregistrer la batterie. Et c'était au mois de novembre l'année dernière. Évidemment, en amont, on a voulu en plus, par rapport à la semaine précédente, faire des maquettes, pouvoir préparer des choses bien avant, proposer à Andrew et qu'il sache déjà vers où on allait. Donc, ouais, ça a pris un an.
D'accord. Finalement, entre les maquettes, le résultat final, il est très proche des maquettes ou vous êtes laissé un peu de liberté sur, je sais pas, certaines choses que vous finalisiez pas ou vous attendiez au dernier moment.
Alors le résultat final au niveau de la construction et parce que les morceaux étaient quasi identiques. Ce qui a changé principalement, c'est que d'une part les solos ont été travaillés. Ils ont été affinés au moment de l'enregistrement et puis surtout tout le travail de cosmétique, on va dire, a été pensé au moment de faire l'album, au moment de la production, plutôt que de le penser en amont. Parce que sinon, on aurait été trop rigide et je pense que mettre trop de barrières, du coup, ça nous aurait un peu enfermés.
D'accord. Ta partie en particulier, toutes les pistes de chant, tu les as posées en dernier?
Alors, de façon très traditionnelle, sur l'enregistrement lui-même, ouais, j'ai enregistré en dernier, et c'est à partir de là qu'on a commencé le travail de mixage de master. Ouais. Pour nous, c'est un parcours un peu, on va dire, logique, parce qu'on l'a toujours envisagé comme ça.
D'accord. En laissant aussi de la marge pour finaliser les paroles, ou tout est calé d'avance?
Non, par contre, voilà, c'était déjà calé en avance au niveau de ce qui était écrit, de ce que je chantais, les placements, tout ça, c'était prévu en avance. Il n'y a qu'au moment de l'enregistrement, peut-être, des fois, on a rajouté des chœurs, ou des voix, ou un autre grain de voix différent, mais c'est vraiment ce que j'appelle moi de la prospective. Tout le gros était là avant.
Et sur les voix, t'as pris combien de temps?
J'ai pris 2 jours et demi, parce que... la dernière fois qu'on avait enregistré, j'avais fait ça en 2 jours, et j'avais trouvé ça plutôt assez épuisant sur le coup. Et là, c'est aussi, j'avais vraiment à cœur de faire les choses bien, donc je préférais cramponner. Et puis bon, ben voilà, il restait une queue d'album avec 2 morceaux à enregistrer. On les a enregistrés sur la 3e journée, tranquille. Puis on a pu revoir certains passages sur les 7 morceaux et puis faire ça proprement.
Et en moyenne, tu te souviens, tu dirais combien de prises par titre?
Ben, je pensais que j'allais en faire puis en général, on faisait deux ou trois prises. C'était moi au début, de prises qui suivaient, et ça se passait plutôt bien.
Et tu penses que sur la masse, combien, ou c'est quasiment hors prise témoin, ta première prise qui est sur le disque?
Ça dépend des morceaux.
Quel a été le plus simple à enregistrer et le plus difficile?
Je pense que le plus simple à enregistrer a été Oppositeur, hein, parce que c'est un morceau très rentre dedans et que du coup j'avais une idée précise que je voulais faire un écho de la voix et qu'on l'avait travaillé beaucoup avant, donc ça a été assez rapide. Et par contre, un morceau comme Inno, qui est le dernier morceau de l'album, demande plus de nuances et qui demande plus de voix différentes et un autre travail, on va dire, d'arrangement, voilà, c'est celui qui va demander un peu plus de travail.
D'accord. Finalement, quand vous sortez comme ça comme tu le disais, d'un processus aussi long d'enregistrement, de par votre manière de travailler, les moyens investis, etc. Après quelques semaines, on veut plus entendre, on veut plus écouter un morceau de l'album ou ça reste toujours. Il n'y a pas cette période de recul, de distance à prendre avec les titres.
Ah non, t'as fait raison. Il y a vraiment une période pendant laquelle tu t'écoutes plus. J'ai pas écouté l'album, et je crois que les gars ne prennent plus. On l'a pas écouté pendant peut-être deux mois. On a fait une vraie coupure. On en a tellement bouffé qu'on va arrêter là. On a saturé. Et après, quand tu y reviens, tu redécouvres tes morceaux et tu dis, c'est pas mal. Hein. Voilà. C'est vraiment un moment où tu t'arrêtes.
D'accord. Au niveau du visuel, il y a forcément quand tu regardes la pochette de Oppositeur et tu fais la comparaison avec The Fast of Solace, tu vois qu'il y a quand même une famille entre guillemets. C'était une volonté pour vous d'être dans une même identité visuelle?
Oui, carrément. On a d'ailleurs recollaboré avec Gordon à nouveau parce que c'était lui qui avait illustré le précédent album. Donc on a construit notre identité visuelle avec lui et ça nous paraît assez cohérent de continuer. On aime son travail, on aime ses idées. Il nous connaissait déjà, donc ça a été plus facile dans ce processus de deuxième album de discuter de ce qu'il allait venir. Donc oui, on peut tout à fait rester dans cette même famille, comme tu dis. Et puis ce qui est bien, c'est que ça se voit et en même temps, on est quand même dans deux visuels différents, donc on n'est pas non plus dans une redondance.
Juste, je sais pas si tu peux répondre. L'idéogramme qui apparaît sur le masque, c'est quoi?
C'est le kanji qui signifie la mort en fait en japonais.
Ah d'accord, ok.
C'est vraiment cette idée de regarder le masque de loin, de voir juste une figure qui te sourit, d'avoir l'impression que c'est quelque chose de plutôt heureux, et de te rapprocher et de finalement d'apercevoir que effectivement il y a ce rictus, un peu malaisant avec ce kanji qui te parle de la mort, et qui donc est un peu vénéneux.
D'accord, ok, c'est clair, c'est sûr, c'est ça. C'est une pochette, effectivement, comme tu disais, sympa et soignée, et puis tu peux passer pas mal de temps à regarder différents détails, donc c'est
c'est ça qui est cool, ouais. Regarder, tu vois d'autres choses.
Ouais, toujours au niveau visuel, donc vous avez fait un clip pour Another Blank Page.
Oui.
Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît dans l'absolu et est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce type-là, il y a d'autres clips potentiellement dans le tuyau?
Ouais, nous c'est un exercice qu'on aime bien parce que ça travaille aussi beaucoup de l'identité visuelle, donc de traduire en images un peu les paroles et les sons du groupe. Donc on a effectivement, comme on est des gens fidèles, on a collaboré à nouveau avec Olivier Jacques qui était celui qui avait fait des clips d'avant. Et du coup, y a ce clip-là était vraiment une partie de rigolade et de plaisir qu'on a eu à faire. Et on a prévu de faire un autre clip qui reprendrait en style documentaire un peu ce qu'on a vécu tout au long de la tournée, sur scène ou en coulisses. Là.
Donc il y a quelqu'un qui vous accompagnait, qui a des heures et des heures d'images en boîte et faudra faire un montage.
Il y a des gigas de images, il y en a, ouais.
D'accord.
Donc, ouais, en fait, on a eu la chance de notre soutenu qui est venu avec nous tout au long de la tournée. Il a fait des concerts et puis on a pris plein de captations avant et après de ce qui se passe dans la vie d'un groupe en tournée. Donc, il y a plein d'images à exploiter.
Ok. Juste deux petites dernières questions pour terminer. Je crois que la dernière fois, je t'avais demandé ce que tu pensais de la scène métal parisienne, donc je vais pas te poser la même. Je te dirais plutôt, qu'est-ce que tu penses de l'évolution sur les 4-5 dernières années de la scène métal? Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas vraiment? Ou je sais pas si ça va dans un sens.
Alors, au niveau des lives, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive dans une configuration où il y a du choix pour tout le monde. Et je trouve ça super cool. Je vois émerger plein de fêtes. Je suis ravi de voir que les gens continuent à aller en concert. Je remarque que de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qui fait vivre les groupes. Donc, moi qui suis un adepte du concert, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que musicien, je trouve que l'évolution dans ce sens-là, elle est plus que positive. Évidemment, j'ai conscience qu'il y a plein de concurrence et qu'on peut pas tous avoir notre place au soleil. Je l'accepte. Mais dans ce sens-là, je trouve que la scène musicale aujourd'hui, elle a effectivement évolué vers une focalisation autour de la musique live. Et c'est pas plus mal. C'est un moment qu'on partage tous ensemble et c'est important.
Et en particulier, donc pour vous à Paris ou Île-de-France en général, il y a des opportunités. Enfin, ça bouge quand même.
Ouais. On a effectivement eu une période un peu difficile où il y a des salles qui ont fermé, où il y a eu beaucoup de chasses aux sorcières qui ont fait que de faire des concerts de musique saturée, ça devenait très compliqué. Mais on est sorti un peu de cette période-là et je crois qu'il y a une prise de conscience comme quoi le public culturel. Sens large, donc en prenant les musiques comme le métal, c'était important que ça fédérait les gens, qu'ils avaient besoin aussi de ça pour décompresser, et que du coup à Paris maintenant on commence à retrouver un peu cette ambiance de sortie et de proposition de concerts avec quelques salles sympas qui n'hésitent pas à programmer du métal.
D'accord, et dernière question donc là finalement ça. Là, vous avez pas chômé ces dernières semaines, donc sortie du deuxième album, tournée de 10 jours dans la foulée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les semaines et dans les mois qui viennent?
Écoute, maintenant qu'on a fait le travail qui pour nous est un vrai travail studieux et rigoureux de production de l'album, pour 2020, on voudrait vraiment pouvoir faire un max de concerts. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de pouvoir peut-être tourner sur des fêtes, atteindre de nouvelles personnes et puis continuer à faire des lives comme possible.
Vous avez des pistes dans ces domaines-là? Fest ou autre?
Ouais, on a déjà commencé à le travail de ça. On va rejouer à Paris le 28 février au Cirque Électrique. On a un fest en Normandie qui nous a contacté. Et puis on commence à poser des candidatures dans des scènes sympas comme le SIDAC. On espère qu'on aura une réponse positive. Et puis d'autres fêtes du même acabit. Et puis évidemment, on va se préparer une autre tournée comme on vient de faire. C'est aussi des vacances et que c'est sympa.
Ok, écoute, en tout cas, c'est le meilleur qu'on vous souhaite. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre et puis à bientôt.
Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt en live.
Ça marche, à bientôt, ciao.